L'émission que vous allez suivre maintenant n'est pas un direct. C'est une rediffusion.
Dernier appel pour les passagers du vol 3 Airlines. Prière de se présenter à l'antre de la Vibe. Embarquement immédiat. Choisissez votre place et installez-vous confortablement.
Classico. Classico. Votre émission qui traite des questions d'économie, d'entrepreneuriat et d'innovation. Classico, c'est le rendez-vous pour vous qui voulez construire le Cameroun. Classico, de lundi à vendredi, entre 10h et 12h, avec Nadine Enongue.
Bonjour et bienvenue en Classico, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et d'être aux commandes de cet aéronef pour voguer vers de nouveaux horizons. Petite, zone de turbulence ce matin parce qu'on commence, vous le constatez bien, pas vraiment à l'heure à laquelle on est censé commencer. Mais une fois encore, économie, entrepreneuriat, innovation sont les maîtres mots dans ce programme et aujourd'hui ne fera pas exception. Et pour savoir exactement ce qu'il est prévu au programme, restez sur 87.9 sur volume3media.com ou alors téléchargez l'application mobile disponible sur Play Store. Merci de boucler votre ceinture et juste avant de décoller, voici notre plan de vol. Aujourd'hui, en classe éco, on va parler d'engrais et des animaux dans la plantation. On va s'intéresser au célèbre poivre de Pinja que cultive notre passager du jour, Pulchéri, Libac. Au marché, on va acheter du piment. En 13 minutes, on s'intéressera au petit déjeuner des Camerounais. Dans Innovation, nous découvrirons Yeli pour transférer de l'argent au Maroc. Le collectif Gen Z 212 pousse le cri d'une jeunesse pauvre et au chômage. C'est ce dont on va parler dans Afrique Économie. Bienvenue en classe éco. La semaine suit son cours et nous sommes mardi, une journée dédiée dans ce programme à l'agriculture avec notre expert Rigobert Ewane qui aujourd'hui nous parle des engrais. Est-ce que c'est nécessairement utile, engrais chimiques, engrais organiques, et aussi est-ce que les animaux ont une importance quand on fait de l'agriculture?
L'expert dans Classico.
À la question de savoir est-ce qu'il vaut mieux utiliser les engrais chimiques ou les engrais organiques, déjà il est important de noter que les engrais chimiques ont une action très rapide sur la plante et est facile à être utilisé. Mais celle-ci ne favorise pas le degré de fertilité du sol, encore moins les actions des microbes dans le sol. Et en cas d'utilisation exagérée ou excessive, ils peuvent polluer l'eau et le sol. Les engrais organiques, quant à elles, ont une action très lente au niveau du sol, car elles minéralisent très lentement et est sans risque pour la santé des microbes qui sont dans le sol, pour le sol et même les eaux. Et elle permet également de maintenir le degré de fertilité du sol. Maintenant, pour la bonne pratique, il est conseillé d'utiliser ou d'associer l'engrais chimique à l'engrais organique, car l'engrais organique va permettre de maintenir le degré de fertilité du sol et l'engrais chimique va venir corriger les carences ou alors les manquements que le sol n'a pas pour permettre d'avoir de bons rendements au niveau de la plante. Non, tous les engrais disponibles sur le marché ne se valent pas, car ils n'ont pas la même composition au niveau des macro-éléments qui sont l'azote, le phosphore et le potassium, et au niveau des oligo-éléments qui sont le soufre, le magnésium, le calcium et autres. Et également au niveau de l'efficacité, il y a des engrais à action rapide qu'on appelle généralement des engrais chimiques et des engrais à action lente et progressif qu'on appelle généralement des engrais organiques. À la question de savoir à quel moment apporter l'engrais à son sol, on apporte de l'engrais au sol lorsqu'on constate que le rendement est en train de chuter. On apporte de l'engrais au sol lorsqu'on constate que le sol n'est plus fertile. Et lorsqu'on cultive ou lorsqu'on met une culture sur pied, on n'apporte pas l'engrais n'importe comment. On apporte l'engrais en fonction du niveau de croissance, de développement de la plante. Déjà, lorsqu'on vient de mettre une plante au sol, la plante a, lui, besoin d'un engrais, que ce soit chimique ou organique, riche en azote, pour sa croissance, qui va lui permettre d'avoir des feuilles bien vertes, qui va lui permettre de pouvoir mieux se nourrir de par la photosynthèse. Lorsque la plante commence à développer des branches et commencer à donner des feuilles, on passe à la croissance. Et là encore, la plante a besoin d'un engrais, que ce soit engrais chimique ou organique, qui est riche en potassium, qui va lui permettre de porter les fleurs, qui va lui permettre de développer davantage d'arbres, qui va lui permettre davantage de développer ses racines au niveau du sol. Et lorsque la plante commence à donner des fruits, on va également apporter un engrais riche en potassium qui peut être un engrais chimique ou encore un engrais organique, ce qui va lui permettre de porter de gros fruits, de donner davantage des branches, de donner davantage des fleurs. Donc, il faut dire que à chaque niveau de croissance et de développement d'une plante, celle-ci a besoin d'un certain type d'éléments nutritifs pour lui permettre de combler ses besoins, pour lui permettre de donner de bons résultats. Il existe des animaux très utiles à l'agriculture, notamment les bœufs, les chameaux, le cheval, car ils permettent dans beaucoup d'exploitations agricoles le labour, le semis, la récolte et le transport des produits agricoles. Il existe également des insectes très utiles en agriculture et je dirais même indispensables pour la survie de l'espèce humaine, notamment les fourmis qui, de par leur matière organique ou alors des matières organiques qui transportent dans le sol, permettent d'enrichir le sol et de favoriser le développement des plantes. Et également des insectes comme l'abeille qui est le poumon du monde car il intervient à près de 70% dans la pollinisation des plantes qui vont permettre la production des fruits et des futures graines qui vont être utilisées pour pouvoir avoir de nouvelles plantes. Et également ces abeilles la produisent du miel qui peut être consommé par l'homme, également de la scie qui va être utile dans nos différentes industries.
L'expert dans Classico. Classico, l'aéroport de l'économie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Le passager du jour dans Classico.
Une chanson de presse dédiée à Yangom, Seka Folk, qui nous plonge un tout petit peu dans le terroir où on a décidé de vous emmener aujourd'hui via notre passagère du jour que je vous laisse découvrir.
Notre passagère du jour nous propose des indications géographiques protégées de la pépinière au sachet. Chaque étape est suivie avec soin pour proposer au monde l'un des meilleurs poivres qui puisse exister. Avec elle aujourd'hui, on va plonger dans son univers épicé pour découvrir les contours de la culture du poivre et ce qui fait la réputation de celui de Pénja. Là, c'est quoi le plaisir de recevoir Pulcheri Ilibak, promotrice de MPJ Compagnie LTD. Bienvenue à bord.
Nous voici donc, on a fait un petit déplacement, non, on a ramené le Mungo à Douala, dans le Vouri, pour parler aujourd'hui du très célèbre poivre de Pénja qui, vraiment, dont la réputation a dépassé les frontières camerounaises. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Madame Pulcheri Ilibak. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue chez Volume 3.
Merci.
C'est un plaisir particulier pour moi de parler de poivre aujourd'hui parce que j'ai tellement de questions. Tout le monde vend le poivre de Pénja dehors. Du coup, moi, j'ai posé les questions que tout le monde se pose à la maison et on n'a pas toujours la chance d'avoir un producteur en face qui peut nous dire vraiment comment est-ce qu'on doit se battre au marché pour qu'on ne nous fasse pas payer le prix du poivre de Pénja alors que ce n'est pas ça qu'on nous vend. Déjà, vous, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans la culture du poivre?
Bon, déjà, c'est une expérience qui date de plus de 18 ans déjà. Mm-hmm. Nous avons commencé à le commercialiser pour le compte d'autres producteurs.
Oui.
Et ça fait 5 ans que nous sommes producteurs nous-mêmes. Mm-hmm. Et que nous essayons non seulement de produire, mais de le commercialiser aussi.
Bah, si ça fait plus de 18 ans, on n'était pas encore avec l'indication géographique protégée. C'était plus quoi? L'opportunité d'être dans un terroir où ça se faisait, ou bien c'était une opportunité business et puis vous l'avez embrassée?
Non, il y a 18 ans, c'était juste une opportunité business. Mm-hmm. Puisque le nom Poivre de Pénja était déjà une marque déposée. Oui. Donc, il fallait juste entrer dans le business et voilà.
D'accord. Et qu'est-ce qui a changé dans la culture du poivre avec depuis qu'on a l'indication géographique protégée, pour vous qui êtes dans le secteur depuis près de 20 ans déjà?
Ce qui a changé, c'est la manière de le cultiver. Mm-hmm. Les contrôles qui sont faits, parce qu'avant, il n'y avait aucun contrôle. Tout le monde cultivait à sa manière. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous sommes contrôlés. Nous avons un gendarme qui est l'OAPI, mm-hmm. qui est derrière nous, pour savoir si effectivement nous respectons les canons de la culture, de la distribution aussi.
D'accord, donc c'est pas juste une question de culture, on surveille jusqu'au process de distribution.
Jusqu'au process de distribution, jusque dans les magasins.
Ok. Déjà pour nous, on va dire quoi? En dehors, on sait qu'il y a le poivre blanc, il y a le noir, il y a le rouge, et quelquefois on nous présente aussi un peu de vert. Mm-hmm. Est-ce qu'à l'œil nu, vraiment, quelqu'un qui n'y connaît rien peut reconnaître le poivre de Pénja?
À l'œil nu, déjà, la caractéristique du poivre de Pénja, c'est que c'est des petites graines. Mm-hmm. Contrairement à ce que nous trouvons sur le marché, avec des grosses graines et tout, toutes blanches là. Mm-hmm. Oui, c'est ça la différence, le poivre de Pénja à l'œil nu.
D'accord. Sinon, mais ça veut dire que c'est le seul qui a ces graines de cette taille-ci?
Oui.
D'accord.
Sur le marché.
Est-ce que ça veut dire que... peut-être sur le point de la qualité aussi, quand un poivre n'est pas le poivre de Pénja, ça veut dire qu'il n'est pas de qualité. Parce que j'ai l'impression que depuis qu'il y a l'IGP, les autres poivres ne valent pas grand-chose quand ce n'est pas le poivre de Pénja.
Chaque poivre a ses qualités. Mm-hmm. La particularité avec le poivre de Pénja, c'est qu'il est, comme j'ai dit, il se cultive dans une zone déterminée. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on parle d'indication géographique.
Oui.
Donc, il est dans une indication... Et tant qu'il est cultivé dans cet espace, il regorge certaines qualités, mm-hmm. qui sont reconnues uniquement au poivre de Pénja.
D'accord.
À cause du sol, mm-hmm. de la qualité des sols dans la zone. Et ça octroie une certaine qualité en termes de goût,
okay.
d'odeur au poivre de Pénja.
Ok, justement, en off, vous m'avez précisé que vous, votre quoi, on va dire quoi, plantation, oui. elle est installée à Loum, oui, mais à pas Loum. À Pénja. Ça m'emmenait à... Je me disais que non, pour que ce soit poivre de Pénja, il fallait absolument que ça pousse à Pénja. Jusqu'où? Du coup, jusqu'où va l'indication géographique protégée?
L'indication géographique va jusqu'à Mbanga.
Ok.
Ça veut dire, tant que j'ai ma plantation en Mbanga, mm-hmm. et que je fais du poivre de Pénja, et que je fais du poivre, mm-hmm. il sera considéré comme poivre de Pénja. Ah. Parce que jusqu'à Mbanga, on est dans la zone géographiquement délimitée, mm-hmm. par l'OAPI.
Donc, on va quoi de Mbanga? La limite, c'est Pénja vraiment, ou on peut aller juste un peu
non,
après?
On va jusqu'après, puisque Loum, c'est après. Mm-hmm. C'est après Pénja. On va jusqu'à Loé.
D'accord.
Oui.
Ok. Mais vraiment, quand on est déjà en con, là, c'est un peu ça. Et bonnet, c'est un peu ça. C'est pas exactement la même chose. Parce que, est-ce que aussi sur... on va dire quoi sur, je sais pas si on dit... c'est le plant. Mm-hmm. On passe de la graine. Comment est-ce qu'on passe? Parce que nous, on voit les graines de poivre. Je me suis toujours demandé, ça pouvait ressembler à quoi? Est-ce qu'il y a une semence de poivre? Est-ce que c'est des graines qu'on fait... On va dire quoi? Qu'on fait germer? C'est ça le verbe?
Non, c'est des boutures.
Ok.
C'est des boutures qu'on fait germer. On les met en pépinière, mm-hmm. pendant 3 à 6 mois pour plus de maturité, 6 mois. Et après, on les met en terre.
D'accord.
En les mettant en terre, on utilise ce qu'on appelle un tuteur. Parce que le poivre de Pénja, c'est une liane en fait.
Ok.
Si on ne la met pas, si on ne met pas le plant, mm-hmm. avec un tuteur, il va...
Ça va ramper partout,
oui,
un peu comme
ramper.
Les feuilles de patate.
Voilà. Donc le tuteur qu'on pose permet à la liane de...
S'enrouler.
De s'enrouler sur le tuteur. C'est ça qui donne... quand vous voyez, vous avez l'impression que c'est un arbre. Mm-hmm. Mais en fait, c'est un tuteur qui okay. supporte une liane. Et voilà.
Parce que il y a un souci si les graines touchent le sol.
Oui, un souci. Sinon, c'est perdu.
D'accord. Mm-hmm. C'est, on va dire quoi? Combien de temps ça prend une fois qu'on a mis le plant en terre pour commencer à avoir le poivre. Vraiment, je vais dire le poivre parce que je cherche les bons mots. Je ne suis pas agricultrice.
À l'époque, il fallait attendre 5 ans.
Oula.
Pour commencer à récolter du poivre. Mm-hmm. Aujourd'hui, à partir de 3 ans, nous avons déjà des petits plants sur lesquels on peut commencer à prendre des petites graines en passant.
D'accord. 3
Mais
ans.
Mais la maturité, c'est 5 ans pour plus de maturité.
Ok, 5 ans. Ça veut dire que ce n'est pas le type de business rapide. Non, c'est pas tout de suite.
Non seulement de la passion, mais beaucoup de patience.
Ok. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui veut... Qu'est-ce qu'il faut savoir impérativement avant de se lancer dans la culture du poivre? Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on entend que, oui, cette plante-là, c'est comme le manioc. Tout le monde s'est versé sur le manioc. À un moment donné, c'était, oui, le kilo du poivre de Penja Kotel. Tout le monde a voulu se lancer. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le poivre, son entretien, avant de se lancer là-dedans?
Bon, il faut savoir, comme tout business, que ça prend du temps. Si vous n'avez pas la patience et la négation qui va avec, vous allez abandonner le projet en cours de chemin. Mm-hmm. Parce qu'il faut 5 ans du jour où on a mis le plan sur un tuteur.
Oui.
Il faut 5 ans pour espérer commencer à récolter le poivre.
Espérer,
oui.
Parce que des fois, ça foire.
Oui, parce que parfois, le plant peut mourir. Mm-hmm. Et on est obligé de recommencer.
Mais qu'est-ce qui peut faire que le plant meurt? Est-ce qu'il y a des maladies comme pour les autres plants par lesquels le poivre est menacé?
Oui. Parfois, la sécheresse. Parfois, le sol même sur lequel il est cultivé. Mm-hmm. Parce que à Pinja, par exemple, les sols sont un peu plus vieux qu'à Loé où nous sommes. Mm-hmm. Donc, ça fait que le sol est épuisé naturellement.
Oui.
Donc, du coup, on ne peut pas avoir le même rendement que sur un sol nouveau, mm-hmm. si je peux le dire ainsi.
Donc, ça veut dire que, je suppose, aujourd'hui, en dehors de... Quels sont un tout petit peu... les conditions qu'il faut remplir dans le cahier de charge de l'OAPI? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser des engrais? Si oui, comment? Est-ce que ça rentre dans l'encadrement de cet IGP-là?
Oui.
Parce que si vous êtes sur un sol nouveau et que ceux qui sont à Penja, c'est déjà un peu compliqué, peut-être parce que le sol, il est vieux. Mmh. Jusqu'à quel point on a le droit d'incorporer des engrais et quel type d'engrais dans la production?
L'IGP a ce rôle-là de suivre les producteurs. Mmh. Parce qu'à son sein, on regroupe des experts.
Oui.
Donc, ça fait que à chaque année, il y a un certain nombre d'engrais qui sont permis pour l'utilisation. Mm-hmm. Et en même temps, c'est eux qui nous le donnent.
Okay.
Donc, c'est une distribution qui est contrôlée, en fait, par l'IGP.
Non, on vous donne ou on vend?
Entre guillemets.
Parce que quand on donne, tout le monde va comprendre que...
Non, on donne, mais pas à des prix... Parce qu'ils prennent la peine de négocier les prix les plus bas pour leurs membres.
Oui.
Donc, ça fait qu'on les a, mais à des prix vraiment réduits.
D'accord. Mm-hmm. Aujourd'hui, est-ce que c'est vous qui... Enfin, c'est les agriculteurs qui font la démarche de demander l'IGP ou bien comment est-ce que ça se passe? Ou bien on suit à peu près tous ceux qui sont dans la zone et on essaye de contrôler ça au niveau de l'OAPI?
Non, dès que vous êtes producteur, vous devez vous faire enregistrer.
D'accord.
Ça ne se discute pas. Vous venez vous faire enregistrer à l'IGP, on vous donne une carte comme producteur.
Ok.
Maintenant, cette carte vous donne accès à tout ce qui concerne le poivre de Penja, toutes nouvelles informations, les produits qu'il faut utiliser, les produits qu'il faut bannir, bref, la démarche.
Mm-hmm. Et ça change tout le temps.
Tout ce qui se passe autour du poivre de Penja. Oui, chaque année.
Non, chaque année, on vous dit, on avait le droit d'utiliser tel engrais, cette année, ce n'est plus possible.
Oui, peut-être, cette année, on a utilisé une certaine catégorie d'engrais et on s'est rendu compte que la production n'a pas été ça. Mm-hmm. L'année qui suit, on peut vous dire, ok, on a étudié, on a vu que ça ne marche pas, essayons plutôt autre chose.
D'accord. Vous parlez tout à l'heure de sécheresse, parce qu'on sait qu'il y a des plantes qui s'épanouissent peut-être quand peu importe le climat. Mmh. Est-ce qu'il faut nécessairement être dans un environnement froid? C'est quoi l'équilibre pour que le poivre puisse, on va dire quoi, s'épanouir et donner ses meilleurs, je ne sais pas s'il faut dire, fruits?
Le poivre a ceci de particulier, c'est qu'il a besoin de chaleur, en même temps il a besoin d'humidité. Là, il faut trouver un juste milieu. Mm-hmm. Pas un sol trop sec, pas de sol trop humide aussi. Parce que quand il est trop humide, parfois ça tue aussi les plantes. Donc il faut qu'il soit climat soit équilibré. Mm-hmm.
Mm-hmm. Donc, quand il y a de grandes périodes de sécheresse, c'est pourquoi on irrigue beaucoup.
On est obligé d'irriguer, oui.
Non, beaucoup aussi. Il faut. C'est tout un. J'ai l'impression que c'est très très contrôlé.
C'est trop contrôlé.
Ok, j'avais pensé que c'est comme toutes les plantes. Comme tu peux mettre la patate en sol et puis tu attends que ça vive sa vie, tu viens récolter. C'est,
non, du tout.
Ceux qui cultivent la patate vont me dire aussi que c'est pas aussi simple que ça, mais je ne m'imaginais pas que c'était aussi compliqué que cela de cultiver du poivre. Donc maintenant, je veux qu'on parle de ces différents poivres-là, parce qu'on en voit le vert, le rouge, le blanc, le noir. Est-ce que ça correspond à différents niveaux de maturité ou c'est des types de poivres différents?
On va dire que ça correspond aux différents traitements qu'on apporte au poivre. Parce que le poivre, à la base, c'est des graines vertes.
Okay.
Maintenant, le traitement qu'on lui apporte devient soit blanc, soit rouge, soit on le maintient vert.
Okay.
Pour avoir le poivre blanc, par exemple, quand on a cueilli les verts, on le trempe pendant 10 jours dans l'eau qu'on remplace tout le temps. Mm-hmm. Et après, on le lave, on le sèche, il est blanc.
D'accord.
Le poivre noir, il est vert à la base. Quand on le récolte, on le met dans l'eau chaude, il devient noir.
D'accord.
Le poivre rouge, c'est le poivre vert qu'on laisse en maturité.
D'accord.
Totale. C'est-à-dire qu'on laisse qu'il devienne en pleine maturité, il devient rouge.
Ok.
On le cueille directement, il est rouge.
Ok. Moi, je pensais que c'est comme avec le poivre. On dit qu'il y a le vert, il y a le rouge, il y a le jaune.
C'est à la base, c'est la même plante, mais c'est le traitement qu'on apporte.
D'accord.
À la plante qui fait à ce que ce soit blanc, vert ou rouge.
Et justement, chacun de ces traitements-là, il correspond à quel type de résultat? Est-ce que c'est, on va dire quoi, le poivre rouge, on l'utilise plutôt pour faire des recettes en particulier, ou c'est les besoins du marché en fonction des contrées aussi?
Ça dépend des besoins du marché, je vais dire ça comme ça. Parce que le vert et le rouge, il est plus utilisé par les Européens. Mm-hmm. Parce qu'ils retrouvent là-dedans des propriétés que les autres n'ont pas.
Oui.
Le blanc, on va dire, beaucoup plus dans des viandes, des sauces. Mais le noir, il est beaucoup plus utilisé pour la braise. Bref, ça dépend de chacun. Mm-hmm. Selon ce que chacun retrouve dans la qualité de poivre qu'il a en face de lui.
D'accord. De toutes les façons, c'est vrai qu'il y a des usages, on va dire quoi, particuliers en fonction des sensibilités de chacun, mais en fonction des cultures aussi.
Oui.
D'accord. Et tous ces poivres-là, on arrive à les retrouver sur les marchés camerounais. Vous faites tous ces traitements-là. C'est vrai que moi, je ne me rappelle pas avoir déjà croisé le poivre rouge, si ce n'est pas sur vos publications que j'en ai vu. Sur le marché, je suis jamais passé à côté du poivre rouge, peut-être que parce que ça ne nous concerne pas.
Non, malheureusement, nous, au Cameroun, on ne connaît pas le poivre de Pénja.
Comment ça?
En fait, toutes les qualités de poivre, si je peux dire comme ça, le poivre rouge.
C'est vrai que si on me montre le poivre rouge, on me dit que c'est poivre épinard, je n'avais pas accepté.
Oui, mais quand vous allez regarder, il ressemble un peu au noir, mais vous allez voir qu'il est rouge. Mm-hmm. Au fond, vous allez retrouver une couleur rouge.
Oui.
Donc, le poivre rouge, depuis que nous sommes dans le poivre, il est plus exporté que vendu au Cameroun. Mm-hmm. Au Cameroun, ce que les gens connaissent, c'est le poivre blanc et le noir.
Oui.
Ça, c'est la base. Maintenant, quand on parle de poivre vert, rouge, beaucoup de gens vont vous demander, mais c'est quoi? Alors qu'il est aussi bon. Mm-hmm. Mm-hmm.
Mais ce que moi, je retiens, c'est que, en fait, tout ça, c'est le poivre. C'est seulement les traitements qu'on leur applique qui font qu'on peut avoir le vert, le rouge, le blanc, le noir.
Le goût aussi. Tous ces poivres traités différemment n'ont pas le même goût.
Mais ils sont autant épicés les uns que les autres?
Oui, il y en a qui sont plus épicés que les autres.
Lequel est le plus épicé?
Le poivre vert, par exemple. Parce que là, il est
pur.
Comme on dit, pur.
Ok.
Sans traitement, rien. Mm-hmm. Il est plus épicé. C'est comme du piment. Mm-hmm. Vous ne pouvez pas croquer deux graines et rester
insensible. Je vais d'abord essayer que je ne m'aime pas beaucoup.
Donc, il est le plus épicé.
Okay.
Parce qu'il subit moins de traitements. Mm-hmm. Donc, il est nature.
D'accord. Est-ce que pour consommer le poivre, il faut forcément le faire sécher? Est-ce que c'est, j'ai l'impression que c'est, je ne sais pas si c'est la version de conservation la moins risquée. Est-ce qu'on peut prendre juste les verts comme ça, ils sont purs et les utiliser?
Oui, c'est pour ça qu'on parle du poivre vert.
Ah, parce que
le poivre vert, c'est celui qu'on a cueilli directement, il est resté vert.
Oui, mais si on le sèche, il reste vert?
Non, on ne le sèche pas. Il est frais.
Ok.
Il est vendu et consommé frais.
D'accord.
Donc, aussitôt cueilli, aussitôt consommé.
Ok. Ça peut, on va dire quoi? Puisqu'il est frais, il peut subsister combien de temps? Puisque c'est pour l'export, c'est pour l'importation.
Non, ça dépend des traitements qu'on y apporte, parce qu'on le garde dans des solutions salées. Mm-hmm. Donc, ça peut tenir 6 mois.
OK.
Par exemple, 6 mois et un peu plus. Mm-hmm. Ça dépend.
D'accord. Je veux qu'on revienne à l'IGP, parce que pour ceux, c'est la première fois depuis que j'entends tout le monde dire qu'il faut vendre le poids de pinza. Je vois un sachet, il y a une, c'est quoi, il est estampillé. Mm-hmm. Ça aussi, c'est une obligation pour pouvoir reconnaître le vrai poivre de pinza.
Oui, c'est une obligation. Et c'est tant que vous utilisez la marque poivre de pinza, on doit pouvoir retrouver ce timbre-là.
D'accord. Donc, si quelqu'un vend le poivre, désormais, je vais traquer cette estampille. Si je ne vois pas ça dessus.
S'il a dit poivre, tout simplement, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'il dit poivre blanc de pinja ou poivre noir de pinja, il doit avoir cette estampille. Sinon, c'est faux.
D'accord. Vous allez zoomer sur les photos qu'on va publier sur notre page, parce que je pense que vraiment, ça, c'est la première fois que depuis qu'on parle de l'IGP, j'en ai jamais croisé qui, tout le monde dit qu'il vend le poivre pinja, c'est en sachet, c'est tout ça. Mm-hmm. Mais désormais, celui qui me dit le prix de son poivre, il dit que c'est pinja et cherche l'étiquette si je ne vois pas. On va beaucoup discuter. Non, il faut dire la vérité. Et donc, à côté de ça, vous avez décidé de vous lancer dans quelque chose d'un peu plus épicé. Vous avez, on va dire quoi, il fallait apporter, faire le poivre autrement. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à ces chips de plantain au poivre de pinja encore?
Parce qu'on s'est dit, bon, les gens sont habitués à... En fait, nous sommes spécialisés dans le poivre de pinja. Mm-hmm. Aujourd'hui, toutes les recherches que nous faisons, c'est comment faire les choses autrement. Mm-hmm. Par exemple, avec ces chips, on s'est dit, les gens font des chips, oui, salés... non salé, pimenté, puisque nous faisons dans le poivre de pinja, on s'est dit pourquoi pas essayer aussi de faire des chips au poivre. Et c'est ce qui s'est passé.
Ça a pris combien de temps pour avoir le résultat, un résultat, on va dire quoi, je sais pas s'il faut dire à la hauteur des papilles des Camerounais, ou bien d'avoir le résultat que vous souhaitiez mettre sur le marché?
Ça fait 1 an qu'on travaille sur le projet. Mm-hmm. Parce qu'il fallait arriver à un résultat où on ressent le poivre quand on mange les
chips. Mais ça ne brûle pas. Ou bien ressentir le poivre, là, c'est le piquant.
Non, c'est piquant. Il fallait ressentir ce piquant-là qui fait la particularité du poivre.
D'accord.
Et maintenant, comment trouver la bonne mesure pour qu'on puisse le ressentir dans les chips? Ça nous a pris pratiquement un an d'essai. Mm-hmm. On essaye, on recommence. On modifie, on revient.
D'accord. C'est épicé au quoi? Au poivre blanc ou au noir?
Au poivre noir.
Ah, d'accord. Épicé au poivre. Pourquoi au poivre le noir?
Le noir parce qu'il est plus piquant que le blanc. Il est plus piquant.
C'est vrai que donc, j'ai déjà essayé de goûter le poivre blanc, mais le noir...
Voilà. Il est plus piquant. C'est pour ça que pour avoir ce piquant-là dans les chips, on s'est dit, on fait avec le poivre noir.
D'accord.
Pour avoir le goût qu'on recherchait, en fait.
1 an pour obtenir ces résultats. Ça veut dire que les secrets de la mesurette, vraiment, c'est le secret du labo. Ouais, même si vous dites quoi ici aujourd'hui, je suis pas sûr que si vous mettez l'argent sur la table, Madame Ilibag va vous dire... c'est à peu près...
Non, allez. C'est un travail qui nous a pris 1 an.
Et pourquoi, pourquoi sur le plantain non mûr et pas le mûr?
Bon, non mûr, on a lancé, il y aura le mûr.
Okay.
Mais pour le moment, nous faisons du non mûr. Mm-hmm. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens sont malades. Mm-hmm. Il y a des diabétiques et tout ça. On a pensé à tous ces gens-là. Mm-hmm. C'est pas salé, c'est juste poivré.
Ok.
Donc, on a pensé à tous ces malades. Mm-hmm. Et voilà.
Mais on a fait les tests quand même déjà aussi sur le mûr pendant qu'on faisait pour le non mûr. Ça va nécessiter...
Oui. Non, on a fait les tests sur le mûr aussi. Mais pour le moment... C'est du non-mûr d'abord.
D'accord. Donc, on a le poivre de pinja IGP estampillé. On a des chips de plantain non-mûr au poivre noir de pinja. Pour la partie argent et prix, vous attendez, mais on va souffler un tout petit peu. On se retrouve dans quelques instants.
Le passager du jour dans Classico. Plus besoin de radio seulement. Tu peux continuer d'écouter ton émission préférée via l'application Volume 3 Cameroun. Volume 3 Cameroun.
Classico.
Pause. Classico se passe aussi sur notre application Volume 3 Cameroun. Volume 3 Cameroun. Classeco, l'aéroport de l'économie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Le passager du jour dans Classeco.
Nous sommes de retour dans ce studio pour la deuxième et dernière partie de notre entretien avec notre passagère du jour, Pulchéri Elibag. Depuis, vraiment, aujourd'hui, on a l'école du poivre. Celui qui a raté la première partie, qui nous suit sur le digital, là-bas, il va aller avoir les vraies informations. Je tenais à ce qu'on fasse beaucoup de pédagogie sur le poivre parce que, vraiment, on dit tout et n'importe quoi. Donc, on a comme produit le poivre blanc et le poivre noir aussi.
Oui.
Et on a des chips de plantain non mûrs au poivre.
Ouais, ouais.
Maintenant, on a dit qu'il y a MPG Company, mais sauf que c'est pas sous la marque MPG que les produits sont vendus, c'est ça?
Oui, MPG c'est la société.
Mm-hmm.
Maintenant la marque des produits c'est Nsan.
Qui veut dire?
Qui veut dire espoir, paix, dans la langue.
On dit que paix sur le poivre qui va te chauffer comme ça.
En fait, on l'a choisi parce qu'on cultive dans une zone.
Mm-hmm.
Et c'est un peu comme pour dire merci à la zone de nous avoir accueillis.
Wow.
On a mis sang qui veut dire paix, unité, bref.
Mais il n'y aura pas la paix dans votre bouche si vous décidez de manger le poivre, si ça va vous chauffer. Le poivre n'est pas censé être doux en principe.
Quand il est bien dosé. Quand il est bien dosé.
Là, on dit qu'on a pris le poivre noir pour faire les chips, alors que le poivre noir est celui qui est le plus piquant. Vraiment. Pour avoir goûté un seul grain de poivre un jour, je ne sais pas si c'était celui de Pinja ou pas, ça m'a chauffé, j'ai démissionné.
Il faut juste bien doser.
D'accord. Du coup, il y a des différents grammages pour le poivre, parce que là, vous avez ramené le format 200 grammes, c'est l'unique format disponible?
Non, nous avons le 200 grammes, 250 grammes et 500 grammes.
D'accord. Qui coûte combien sur le marché?
Bon, sur le marché, le prix moyen pour les 500 grammes, on se retrouve à 11 500 à 12 000.
Mm-hmm.
Pour les 250 grammes, nous sommes entre 8 000 et 9 000 dans les supermarchés.
Mm-hmm.
Et le 400 grammes, on est entre 6 000 et 7 000.
Mm-hmm. Donc, ceux qui disent que j'ai 1,5 litre de poivre de Pinja, c'est 15 000 là. Ça veut dire que l'indicatif sur le prix, ça veut dire que c'est le faux.
Non, le kilo du poivre blanc aujourd'hui, il est à 13 000.
D'accord. Mais quand vous dites que le kilo est à 13 000 et que les 500 grammes, c'est le packaging qui fait que c'est 11 000, 12 000.
Non, il y a beaucoup de choses. Nous, on livre et puis maintenant, il y a les supermarchés qui mettent leur marge.
Ah, d'accord.
Il y a le packaging, il y a le branding, il y a tout ce que ça comporte, le thème qu'on met un coup.
Mm-hmm.
Et la livraison aussi.
Et il y a les stampilles, parce que si au moins on a la preuve. Entre ma bouteille d'un litre et demi.
Si vous allez dans un supermarché, vous achetez un poivre, je prends un exemple. 500 grammes de poivre.
Mm-hmm.
Vous arrivez chez vous, quand vous trouvez un problème, vous faites remonter le problème avec à la lecture du thème.
Mm-hmm.
On peut vous dire à qui appartient ce poivre.
D'accord.
Le lot sur lequel il a été cultivé.
Mm-hmm.
Ça veut dire que s'il y a un problème, on sait que c'est sur le lot numéro 1. Mm-hmm. Dans la plantation, et on retrouve facilement le problème.
Ça veut dire que le QR code qui est estampillé dessus, tous les producteurs n'ont pas le même.
Non, tous les producteurs n'ont pas le même.
Ok, d'accord. C'est une nouvelle information. Et pour les chips?
Bon, les chips, c'est notre création à nous.
Mm-hmm.
Les chips ne sont pas dirigés par l'OAPI ni par l'IGP.
Mm-hmm.
Ça, c'est une création qu'on a voulu faire à base du poivre que nous avons déjà sous la main. On s'est dit, pourquoi pas?
On le retrouve dans les mêmes supermarchés que le poivre pour l'instant?
Non, les chips, c'est un nouveau produit. Mm-hmm. Il n'est pas encore en grande surface.
D'accord,
nous
pour l'instant.
On est encore en train de travailler pour le mettre dans les grandes surfaces.
Mais les gens peuvent déjà l'acheter?
Oui.
Ça coûte combien?
600 le paquet.
600 le paquet de 200 grammes.
Mm-hmm.
Et pour acheter justement, on va où? On appelle qui? On fait comment?
On me contacte juste.
À quel numéro?
Pour le moment. Au 6 99 66 11 53.
99 66 11 53. Et si tu entrais prendre le numéro pour vous pour le moment, en attendant que ce soit disponible dans tous les marchés. Est-ce que, bon, je ne sais pas si on va garder les mêmes prix quand ce sera le plantain mûr, on verra. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous avez dit qu'au début de l'activité, vous produisiez, c'était pour les autres. Est-ce que depuis que vous êtes lancé en tant que producteur et vous avez lancé votre propre marque, vous avez encore de la production destinés à d'autres ou bien non, c'est fini?
Non, c'est fini.
D'accord. Donc aujourd'hui, ah, c'est un savouré.
Oui. Aujourd'hui, nous sommes producteurs, nous sommes vendeurs, nous sommes tout ça.
D'être importateur, exportateur, tout ça. Le verbe là se mélange dans ma tête aujourd'hui. Donc, je ne m'imaginais pas, jusqu'à ce que je regarde bien sur ce paquet, que le poivre avait une date de péremption.
En réalité, si on veut le faire de façon pratique, on ne peut pas dire qu'il a une date de péremption.
D'accord.
Mais nous mettons la date de péremption pour des raisons commerciales.
Ok.
Parce que en grande surface, il faut bien dire, le ministère du commerce oblige qu'on dise quand même.
Ah, mais si ça dépasse, on peut toujours conserver son poivre.
Oui, on peut toujours conserver. On peut le garder 10 ans. Il faut juste qu'il soit bien conservé.
Parce qu'il y a les fanatiques des dates de péremption. Dès que c'est le jour, il leur dit, il ne veut rien savoir.
Non, pas pour le poivre. Tant qu'il est bien conservé, il peut faire 10 ans.
Justement.
Tant que l'humidité il n'est pas en contact avec l'humidité, il peut faire 10 ans.
Justement, parlons de la conservation du poivre. Il vaut mieux le conserver en grand ou moulu, parce qu'il commence à y avoir différentes écoles. D'autres disent que non, il faut moudre quand on veut utiliser. D'autres disent que non, on peut acheter le moulu. Est-ce qu'il y a vraiment...
Non, le véritable poivre de Pindah, il n'est pas moulu. Il est en grain.
Non, on ne le trouvera jamais moulu.
Non, c'est même interdit par l'IGP.
D'accord.
Parce qu'on s'est dit, ils n'ont pas encore créé un système qui permet de contrôler.
Parce qu'on peut mélanger.
Le poivre, voilà. Okay. Justement, pour éviter les mélanges que les gens font sur les marchés, ils ont dit, pour le moment, parce qu'on ne peut pas encore maîtriser, il est interdit qu'on retrouve le poivre de Pindah moulu.
Non, si quelqu'un a ça moulu, ce n'est pas le poivre de Pindah.
Déjà, vous n'allez pas le trouver moulu dans les grandes surfaces. Ouais. Peut-être au marché, oui. Mais dans les grandes surfaces, vous ne trouverez pas ça en moulu. En grain, oui.
D'accord. Avec tout cet encadrement-là, il y a encore quand même des gens qui doutent de la qualité de votre poivre ou bien non? Parce que entre on s'embrouille, on ne connaît pas vraiment. Est-ce qu'il y a des gens qui doutent encore malgré l'eau à payer, l'estampille et tout ça?
Non, il y a eu un travail de fou autour du poivre de Pindah. Ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde est éduqué. Chacun vraiment a une petite connaissance sur ce qu'est réellement le poivre de Pindah. Et je ne pense pas, les gens ne doutent plus.
Ok. On sait qu'en juin dernier, il y avait le premier rendez-vous dédié au poivre de Pindah. Vous étiez de la partie?
Oui.
Ça s'est plutôt bien passé. Parce que moi, je voulais partir, mais je n'ai pas pu arriver là-bas. C'était quoi? C'était plus de la sensibilisation? C'était plus les connaisseurs qui venaient ou...
Bon, il y avait tout ça. Mais bon, pour une première édition, il y a eu des couacs qui peuvent se rectifier.
Oui.
Mais en gros, c'était bien. Les gens sont venus découvrir ce que c'est réellement. Toucher du doigt les réalités du poivre de Pindah. Et à côté, il y avait la gastronomie. On utilisait justement le poivre de Pindah et tout. Donc, c'était bien.
C'est vraiment utilisé, consommé comme il se doit au Cameroun. Parce que la plupart du temps, quand on en parle, c'est quand on a vu dans une émission de cuisine, un grand chef dit qu'aujourd'hui, il a utilisé le poivre de Pindah. Et puis, on a l'impression que mais finalement, on a quelque chose de bien chez nous. Est-ce que à ce niveau-là, c'est complètement réglé ou les Camerounais, la plupart du temps, ce n'est pas leur affaire?
Non, je crois que de plus en plus, les Camerounais sont intéressés. Parce que quand on regarde le niveau des ventes dans les surfaces, on se dit, ah, les gens connaissent à quoi ils ont affaire désormais. Ça marche et les Camerounais sont informés.
D'accord. Est-ce qu'on se sent mieux quand on est producteur et vendeur de poivre? Parce que très souvent, on dit que ceux qui produisent ne sont pas forcément, n'ont pas besoin de commercialiser leurs produits, chacun son métier et tout ça. Vous contrôlez mieux, c'est plus rentable depuis que vous êtes producteur et commerçant de votre propre poivre?
Bon, nous avons été vendeurs. Depuis très longtemps. Et aujourd'hui, nous avons la casquette de producteur. Moi, je peux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Nous avons vendu sans être producteur. Aujourd'hui, nous produisons et nous vendons.
Oui.
Bon, je ne crois pas qu'il y ait un réel souci à ce niveau. C'est juste maîtriser la chaîne du début jusqu'à la fin.
D'accord.
C'est tout.
Justement, quand on doit maîtriser la chaîne du début jusqu'à la fin, on a à peu près combien de personnes à diriger, surveiller, contrôler pour être sûr que tout soit fait de la plantation au sachet dans les règles de l'art?
Bon, nous avons une équipe de 20 personnes qui sont sensibilisées déjà parce que l'IGP fait des formations pour sensibiliser les uns et les autres à la culture, à tout ce qu'il faut et ne pas faire. Maintenant, au niveau de la vente, les commerciaux qui vendent le poivre de Pénja sont aussi sensibilisés. Parce que étant vendeur, vous vous inscrivez aussi à l'IGP comme vendeur.
D'accord.
Parce que nous produisons au nom de MPG, Plantation, mais nous distribuons à un autre nom.
Oui.
Et ce nom aussi est enregistré à l'IGP.
D'accord.
Comme vendeur.
Ok.
Donc sensibiliser aussi en tant que vendeur. Et en tant que producteur au même moment.
Donc, si quelqu'un doute, il va à l'IGP et demande est-ce que telle marque fait partie de
Quand vous allez arriver à l'IGP, vous allez voir toutes les marques que les producteurs utilisent sont déposées là, au vu au-dessus de tout le monde.
Oui.
Ce n'est pas des informations qu'on cache.
Oui.
Chacun peut aller là-bas et se rassurer si effectivement le poivre que je vois sur le marché fait partie de. Du groupement, en fait.
D'accord. Quand on a une main d'œuvre qui est autant sensibilisée, tant à la production qu'à la vente et tout ça, il n'y a pas un peu beaucoup de batailles pour les conserver? Parce que c'est quand même des gens qui maîtrisent dans le domaine agricole, c'est quoi? Tout le monde s'en sort avec ces gens où il n'y a pas la petite bataille de « est-ce que je lui chippe pas un peu de gars qui maîtrisent ?» Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que ceux qui connaissent déjà, on les garde, en fait?
Non, déjà, le poivre de Pénjas, tout le monde est au même niveau d'information.
Oui.
Déjà, c'est vrai que gérer la main d'œuvre n'est pas évidente. Vous avez beau donner le ciel et la terre à un employé, s'il veut partir, il partira. Mais l'avantage qu'on a, c'est que on les retrouve assez facilement.
Ok.
La main d'œuvre est disponible et la formation n'est pas aussi contraignante que ça.
D'accord.
On apprend beaucoup plus sur le tas. Avec les informations qu'on reçoit tout le temps, on essaye d'informer ceux qui sont là depuis. Parce que même si vous faites 10 ans dans une plantation, vous avez besoin d'être formé.
Oui.
Parce que les données changent. Chaque année, on change l'utilisation, par exemple, des engrais et tout ce qui va avec. Donc, la formation, c'est tous les jours.
Et qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans la création de contenu? Parce que moi, je l'ai découvert sur TikTok. Je me disais, mais j'ai pas encore reçu quelqu'un qui fait le poivre. N'avez pas cherché MPG sur Facebook, sur les autres. Elle va là-bas. Je pense qu'il faut aller sur TikTok exclusivement. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer sur ce terrain-là?
Déjà, ça fait pas 2 semaines que je me suis formé sur la création de contenu parce que j'ai compris que c'était un filon qu'il fallait exploiter. Avant, on le faisait, j'étais plus sur WhatsApp.
Oui.
Mais je me suis rendu compte que tous les contacts de WhatsApp savent déjà ce que je fais.
Oui.
Maintenant, comment aller dire aux autres que, écoutez, voilà aussi ce que je fais. Je me suis formé dans la création de contenu. Je crois que c'est sur ce poste-là que vous êtes tombé.
Oui.
Et voilà, j'ai pas eu tort.
Donc ça va continuer, on va avoir plus de vidéos sur le bon, bien. Le mauvais, comment est-ce que...
Parce qu'il faut nous éduquer. Cette page a été créée pour éduquer en fait. Déjà pour dire, parce qu'on va parler de la culture aussi, de comment on va de la pépinière jusqu'au produit fini. C'est prévu.
Peut-être que chacun va prendre un plan, essayer de mettre un peu dans sa cour pour voir si ça peut donner quelque chose.
Oui, c'est ce qu'on souhaite parce que aujourd'hui la production nationale est insuffisante. Déjà, la demande est plus grande que l'offre. Donc, il serait utile que beaucoup de gens se lancent dedans pour que nous puissions faire face.
Mais en sachant ensemble, que même si on a pris le plan à Pénja, si on vient le déposer à Douala, ce n'est plus le poivre de Pénja.
Non, ça sera du poivre.
Ok.
Il y a par exemple le poivre d'Indiki qui n'est pas le poivre de Pénja.
Oui. Mais comme il y a un autre qui fait le poivre à Sondon quelque part.
Voilà. C'est du poivre, mais ce n'est pas du poivre de Pénja.
Oui, je pense que c'est important qu'on reprécise que si tu as pris c'est la semence, c'est le plan du poivre de Pénja, tu déposes à Yaoundé, c'est le poivre.
C'est le poivre de Pénja. Mais ça ne sera pas le poivre de Pénja parce que la qualité, la première différence, c'est le sol. En fait. C'est le sol sur lequel est cultivé le poivre. C'est ça qui lui donne tous ses avantages. Donc, le plan qu'on prend à Pénja, qu'on va planter à Andiki, par exemple, je ne sais pas où, ça va donner du poivre.
Okay.
Mais sauf que quand vous allez le récolter, vous allez le mettre là, vous allez mettre le poivre de Pénja de l'autre côté, vous allez voir une nette différence. Mais c'est la même bouture. Sauf que le sol joue un rôle très important.
Ouais, je pense que la partie éducative sur le traitement aussi, parce que moi, elle me disait que c'est le, comme c'est vert, là, quand ça sèche, ça devient le poivre blanc. Donc, j'ai vraiment beaucoup appris aujourd'hui. Non. Donc, merci beaucoup, Madame Ilibak, d'être venue nous parler du poivre.
Merci à vous.
Voilà. Si vous cherchez sur TikTok, vous demandez c'est un sang, poivre de Pénja. Ne cherchez pas MPG, est-ce que vous avez cherché longtemps? En tout cas, c'était un plaisir de parler de poivre aujourd'hui, de vous emmener dans le Mungo. Donc, on va souffler une fois de plus, un tout petit peu. Et puis, quand on revient, on va parler de quelque chose qui chauffe aussi. Vialingea nous enverra au marché acheter du piment.
Le passager du jour dans Classico. Hey, c'est pas parce que tu quittes ton véhicule que tu ne peux pas continuer d'avoir la vibe. Télécharge l'application sur Play Store. Volume 3 Cameroun.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez seulement maintenant. Vous êtes à l'écoute de Classico sur volume 3. On parle d'économie, d'entrepreneuriat, d'innovation. Tout à l'heure, on parlait de poivre. En début, on a parlé d'agriculture et d'engrais. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup le marché. Et une fois encore, on va se rendre au marché. On va rester dans tout ce qui pique parce que Vialingea nous propose justement d'acheter du piment.
Écomarché, tous unis contre la vie chère.
Après la coupure du gâteau vendredi dernier lors de mon anniversaire, mes potes et moi sommes allés continuer la fête à la rue de la Joie à Deido, une rue très réputée pour sa qualité du poisson braisé qui occupe une grande place. En dégustant, je me rends compte que la saveur du piment n'est pas très piquante, contrairement à ceux que j'ai déjà consommés, ce qui me donne matière à réflexion. Curieux que je suis, le lendemain, je décide de mener ma petite enquête, question de savoir pourquoi d'un piment à un autre, la saveur diffère. Direction le marché de Bounamoussadi, que j'aime bien pour la diversité des produits qui s'y trouvent. J'y rencontre beaucoup de monde, on dirait qu'on est déjà au mois de décembre et je finis par réaliser que c'était la veille des élections et les citoyens un peu trop prévoyants et alarmistes faisaient le plein des courses. Dans tout cet embouteillage, j'aperçois un vendeur de piments en brouette au nom de Willy avec qui on discute de la provenance des piments et des différents types qu'on retrouve sur le marché.
Moi c'est Willy.
Ton piment vient d'où?
Bon, le piment s'il vient du sud. Mon piment c'est le piment de l'est.
Plusieurs, hein, plusieurs. Je distingue déjà le piment Bamoun, le piment Bafang, le piment du sud, le piment de l'est. Bon, voilà au moins c'est les quatre grandes zones qui nous produisent le piment au Cameroun.
Ils sont tous utilisés, hein, ils sont tous utilisés. Puisque chacun de ces piments-là, donc chacun a son temps de production, quoi. Donc c'est pas à tout moment qu'on retrouve tout le même piment sur le marché. Donc il y a les périodes où on retrouve tel piment et les périodes où on retrouve tel piment. Par exemple, maintenant, nous sommes avec le piment du sud. Donc avant cette période, si on était avec le piment de l'est, et peut-être d'ici deux semaines, on va entrer dans le piment Bamoun.
Et tous sont le même prix?
Non, pas le même prix. Plus c'était lequel le piment était le piment de l'est et après vient le sud. Donc bon, ça varie aussi, hein, ça varie aussi. Ça varie en fonction de la saison et aussi de la zone de production aussi. Par exemple, le piment Bamoun, comme on entre bientôt dans le piment Bamoun, ça va un peu devenir moins cher puisque ce sont les période de pluie maintenant à l'ouest. Mais dès à partir de la saison sèche de janvier, février, comme ça, on en a le piment Bafang qui devient un peu plus cher que d'autres piments. Mais pas parce qu'il est bien, parce qu'il est entraîné, il sort d'une période où nous sommes pratiquement dans la saison sèche à l'ouest. Mais il trouve un produit de piment, donc manque de pluie, ça fait que ça devient un peu plus cher.
Actuellement, le prix du piment, c'est le moins cher.
Mais on n'a pas le prix, puisqu'il fait partie des vivres. Ça, c'est, on les considère comme vivres frais, parce que le prix, ça dépend maintenant de la quantité qui entre sur le marché. Il y a des jours où on arrive, ça peut être excédent, les jours ça peut être en déficit.
Le plus grand des 100 aujourd'hui, c'est moins cher?
Non, c'est plus cher. Plus cher aujourd'hui par rapport à dimanche.
Ça peut être cher aujourd'hui, demain c'est moins
cher? Demain c'est moins cher, oui, ça varie. Le piment n'a pas un prix fixe. La différence sur celle qui pique ou qui ne pique pas, ce n'est pas sur la couleur, c'est plutôt sur le piment, un peu comme le piment Bamoun. On sait que c'est le meilleur piment parce que, pas en termes de solidité, mais en termes de son efficacité, il pique plus que les autres piments. Ouais. On peut pas, on distingue la couleur seulement sur l'arôme parce que le jaune est plus aromatisé que le rouge. Et aussi, ça dépend des plats.
Oui, il y a des clients qui viennent demander le vert, des clients qui demandent le rouge. Ça dépend aussi des menus qu'on veut confectionner.
Par exemple, le rouge, on peut
le piment jaune, on utilise plus dans les mers comme le pilet, les trucs sautés quoi. Oui, les trucs qu'il faut sauter, généralement nous sommes avec le piment jaune parce que ça a d'abord un bon parfum, un très bon arôme.
Comment ça se comporte?
Bon, le piment, oui, ça se gâte vite, c'est délicat. C'est pour ça que tu dis, il est sollicité plus le piment de l'Est comme le meilleur parce qu'il est solide. Il est solide, il ne se gâte pas facilement. Pour le conserver, il faut seulement qu'il évite l'eau. Par exemple, tu vas voir ma boîte bien un peu mouillée. Il va falloir que d'ici la soirée, si j'ai le reste, je fais l'effort d'étaler ça un peu à l'air libre, où l'eau ne doit pas passer. Il faut que ça soit sec.
Le piment, qui est une touche de vin pour ceux qui en consomment, reste un produit presque indispensable pour certains consommateurs.
Est-ce que pour vous le piment est indispensable dans le repas ?
Pour moi, oui, oui.
Vous pouvez manger sans piment
ou... Oui, il peut arriver que je mange sans piment, mais je préfère avec du piment.
Selon les nutritionnistes, le piment est riche en vitamine C, en antioxydants et contient de la capsaïcine, qui est une substance qui stimule la circulation et améliore la digestion. Il aide aussi à réduire le cholestérol et à brûler les graisses. Mais attention, consommé avec excès, il peut provoquer des irritations gastriques. L'idéal serait de mettre juste assez pour relever un peu le goût. La production nationale de piment est estimée à près de 75 000 tonnes par an pour une valeur de 20 milliards de francs CFA, d'après les chiffres du Minader en 2024. Les principales zones de production sont dans les régions de l'Ouest, du Centre et du Nord-Ouest. Mais la demande est plus forte dans les grands centres urbains comme Douala et Yaoundé. Le marché enregistre une croissance de 8% par an, portée par la consommation locale et des petites exploitations vers le Nigeria et le Gabon. Une filière qui reste prometteuse, mais encore trop dépendante des saisons et de l'état des routes. Des champs aux marmites de nos maisons, le piment reste ce petit fruit au grand pouvoir. Il pique, il brûle parfois, mais sans lui, nos plats seraient bien fades.
Écomarché, tous unis contre la vie chère.
Après ce tour au marché pour nous intéresser au piment, on va plonger un tout petit peu dans vos assiettes à présent. Qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner pour ceux que ça concerne en tout cas? Et du coup, on parle du rapport satiété-prix en 13 minutes.
13 minutes dans Classico.
Petit déjeuner est reconnu comme étant le repas le plus important de la journée, pris après une période de jeûne généralement entre 6h et 11h. Toutefois, ses composantes varient d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, voire d'un continent à l'autre. Bienvenue à Douala, la locomotive économique du Cameroun. Chaque matin, des millions de personnes se préparent à affronter la journée et pour ceux qui se plient à ce rituel, il y a l'indétrônable petit déjeuner. Loin d'être un simple rituel culinaire, ce premier repas est un baromètre social, un indicateur criant des réalités économiques, des ménages entre tradition, importation et inflation. Nous analysons aujourd'hui l'impact de ce repas matinal sur le budget et la consommation des Douanais. Ici à Douala, la journée commence souvent dans la rue pour beaucoup qui doivent sortir aux aurores. Le petit déjeuner y est un service public, rapide et accessible, une nécessité pour les millions de travailleurs et d'étudiants qui n'ont pas le temps ou les moyens de s'attabler à la maison. L'offre est segmentée. Pour les plus pressés, c'est le pain omelette ou le pain sardine. Mais le roi incontesté, le véritable pilier énergétique du travailleur camerounais, est le fameux BHB, béni haricot bouilli. Un choix avant tout économique. Il s'agit de maximiser la satiété pour le coût le plus bas. En effet, pour une somme souvent inférieure à 500 francs CFA, le BHB offre un apport énergétique suffisant, comme le confirment les consommateurs.
Et comme vous voyez, j'ai à main ici mon plastique de pain haricot bouilli. C'est C'est mon petit déjeuner. Je viens de l'acheter et je vais aller consommer. Vous voyez que à matinée, c'est très pratique. Parce que le matin, je le prends pour mieux affronter la journée. Parce que quand on a une journée très chargée en face, il faut bien recharger les batteries très tôt le matin. Donc il faut essayer de manger léger pour préparer justement son organisme à pouvoir affronter la journée. Maintenant, par la suite, on verra comment les choses évolueront, notamment au niveau du déjeuner, voire du dîner en soirée. Donc, mais le matin déjà, je prends les beignets haricots bouillis. Parfois, je peux varier et je prends du pain. On ne débourse pas énormément. Je pense que ça va être 300 francs ou 400 francs, du moins parfois moins, avec seulement moins de 500 francs. Tu as ton compte.
Moi, si tu me vois boire la bouillie parce que je n'ai pas l'argent. Si j'avais l'argent, je mange la viande. Parce que je suis pauvre et boire la bouillie de 100 francs, c'est seulement ça. Sinon, ce n'est pas ma nourriture. C'est la viande que je mange. Si j'ai l'argent, je mange tout. Je n'ai pas la bouillie.
Pour moi, je pense que c'est plus facile pour boire parce que c'est un peu moins cher. Avec vos enfants, vous pouvez manger des beignets à l'eau. Avec toujours même 100 francs, vous pouvez prendre des beignets bouillis simples, mais simples. C'est facile, tout le monde peut avoir, tout le monde peut faire manger beignets avec haricots.
Pour moi, le matin, mon déjeuner, c'est le beignet comme ça, là, avec l'haricot et la bouillie. Je mange, je me sens à l'aise. En journée, vers midi, là, je prends un peu le chai. En soirée encore, donc je mange la nourriture, c'est comme ça mon menu du jour.
En plus des beignétariats, il y a les commerçants ambulants, eux aussi principaux fournisseurs de cette énergie matinale. Ils sont vendeurs de beignets et de pain haricots, des activités grâce auxquelles ils affirment s'en sortir honorablement.
Je fais dans le petit métier, je vends le pain haricot, je fais le pain viande et parfois le pain chargé avec les œufs bouillis. Bon, c'est le petit déjeuner des Camerounais, c'est le niveau de vie d'un Camerounais qui n'a pas, qui se cherche. Donc le marché n'est pas tous les jours fluide parce que d'autres peut-être ont réchauffé le repas chez eux, ils ont déjeuné avant de sortir. Certains qui vont à l'école viennent charger le pain de leurs enfants ici, d'autres s'asseyent, mangent carrément ici. Donc c'est un commerce qui varie quoi. Mais généralement, on se bat, on a nos petits bénéfices et puis on rend grâce à Dieu parce que c'est avoir le peu que de ne rien complètement, ne rien avoir.
Moi, j'ai un bénétariat, la beignet avec au bouillie et j'ai constaté que nous, le Camerounais, nous aimons bien manger des beignets avec au bouillie et vend chaque matin ici à Balamoussadji et surtout qu'il y a certains clients qui désirent manger beignets avec au, d'autres beignets bouillis, d'autres beignets serbes. Donc, selon chaque client, les désirs de chaque client.
Moi, je suis commerçant du pétariat. Je vends les beignets, haricots, spaghettis, bouillon. Des fois, il y a le marché, des fois, il n'y a pas le marché. Les clients préfèrent le bouillon et la bouillie, les beignets.
Si le petit déjeuner de rue est une réponse à la nécessité, celui pris à la maison révèle une autre réalité. La forte dépendance aux produits importés et la pression incessante de l'inflation pour le petit déjeuner familial. L'assiette type reste un mélange de traditions. Chez les familles les plus aisées ou soucieuses de la nutrition, l'équilibre est privilégié.
Pour faire mon petit déjeuner, moi je pouvais prendre mes œufs avec le lait, avec du pain. Bon, c'est un peu ça. Et après, je prends une autre tasse de petit quoi, de thé. Après, ça me donne l'énergie, ça me donne la force de pouvoir travailler durant toute la journée.
Moi, le matin, je préfère manger quelque chose de consistant parce que je peux tenir toute la journée jusqu'à la nuit même parce que aussi le pays est dur. Comme vous voyez, tout à l'heure, vient de sonner un plat de spaghetti avec deux œufs et tout un géant pain pour passer toute la journée. Si le soir, il n'y a pas pour le soir, je dors tranquille.
Moi, le matin, je prends mon pain avec du lait et les œufs frits.
si possible, ou les œufs bouillis ou la charcuterie le matin. Parce que moi, la nourriture le matin, le réchauffer, c'est pas bon pour la santé. C'est mieux de prendre le lait, être en bonne forme, surtout pour sa santé.
Bon, moi, au petit déjeuner, je préfère manger du pain avec un peu de chocolat à l'intérieur et tassiner à compagnie pour améliorer ma digestion et tout, garder la forme.
Les boutiquiers observent d'ailleurs qu'une partie de leur clientèle en achète massivement le matin.
Je suis commerçant, je vends les œufs spaghettis. Les Camerounais aiment bien manger parce que c'est un repas vite fait, ça perd pas le temps. Les Camerounais aiment bien consommer ce petit déjeuner chaque matin, surtout parce que lorsque j'insiste le matin, parce que chaque matin il y a un peu plus d'affluence par rapport à l'après-midi et en soirée.
Et si boutiquier le matin, les gens en viennent acheter les gâteaux, chocolat, beurre, pâté, les œufs aussi, les croissants, voilà, les croissants.
Si boutiquier est là-bas, je vends à l'église Mbangé. Les gens viennent acheter chez moi, le pain beurre chocolat, un peu beurre mayonnaise, les œufs avec les saucissons, avec les pâtés, le lait avec les œufs.
Pour une autre catégorie de ménage, l'ingéniosité face au coût de la vie dicte le menu. Plutôt que d'acheter des produits frais et onéreux, ils se tournent vers une solution à la fois économique et énergétique, le réchauffer.
En fait, le matin, moi je préfère manger le réchauffé, hein. Je préfère manger du réchauffé parce que bon, la plupart des temps, quand je mange peut-être du pain très tôt du matin, peut-être aux environs de 14-15 heures, je peux sentir mon ventre peut-être ballonné, un truc de ce genre. Donc la plupart des temps, pour que je mange même du pain, il faut que ce soit dans les 11 heures comme ça là, 11 heures midi ou trop comme ça. Bon, c'est un peu ça. Mais la plupart des temps, moi je mange du réchauffé. Ou bien la plupart des temps, si je mange pas du réchauffé, je bois d'abord de l'eau beaucoup. Donc, en attendant que midi arrive pour que je puisse manger. Donc c'est un peu ça. Bon, les plats que je réchauffe plus le matin, il y a la banane malassée, il y a le concha que je peux manger, il y a le couscous maïs, parce que déjà moi je n'aime pas trop du riz. Donc c'est un peu ça. Voilà, c'est le repas que je réchauffe la plupart des temps pour manger. Donc c'est un peu ça.
Quant à moi, le matin, je ne mange que le couscous, une chapcha. Parce que quand je prends l'autre là, je dors, je peux faire tout droit là, à pied sans être fatigué.
Et moi, j'ai des préférences. Hein. Moi, au petit déjeuner, moi, je mange, je consomme juste les réchauffés. Hein. Non, les nourritures qui ont dormi, j'adore ça. Au petit déjeuner, comme le banane malaxé, le contré, les pommes de terre pilées. Non, ce qui fait que moi, le lait, les haricots bouillis là, moi j'aime pas trop. Moi, mes préférences, c'est les réchauffés. Surtout banane malaxée et une congrée et les pommes de terre pilées. J'adore.
Le petit déjeuner à Douala est donc une mosaïque de choix. Tous façonnés par le coût de la vie, ils révèlent un Cameroun tiraillé entre le réflexe de l'importation et la résilience de l'économie locale. L'avenir nous garantit la stabilité budgétaire des ménages et une meilleure santé publique repose sur la valorisation des filières agricoles locales, en soutenant la production d'alternatives aux blés importés et aux produits transformés, notamment en promouvant les céréales complètes comme la bouillie de mil ou les farines locales, comme c'est déjà le cas avec la patate, le manioc ou le plantain utilisé dans la fabrication du pain ou pour les pâtisseries. Le Cameroun peut non seulement alléger le fardeau économique et ses citoyens, mais aussi renforcer sa souveraineté alimentaire. Au regard de ses habitudes de consommation, notamment en ce qui concerne le petit déjeuner, et partant le budget qui lui est alloué, que le combat pour le pouvoir d'achat commence dès la première bouchée.
Minutes dans Classico. Tout savoir sur les dernières innovations dans Classico.
Et si vous pouviez transférer de l'argent d'un portefeuille mobile d'un opérateur à un autre, c'est la solution qu'on vous propose aujourd'hui avec Yeli, une application simple, rapide et sécurisée qui facilite vos transactions mobiles au Cameroun. Transfert d'argent instantané, donc vous pouvez envoyer et recevoir de l'argent facilement entre les différents opérateurs. Vous pouvez également acheter vos forfaits Internet chez l'opérateur national directement depuis l'application en quelques clics, simple et pratique, une interface intuitive, sans frais cachés, une expérience pensée pour vous faire gagner du temps. Yeli vous promet également de la sécurité avec vos transactions qui sont protégées avec les standards de sécurité les plus élevés. Si ça vous intéresse de voir un tout petit peu comment ça fonctionne, l'application est disponible sur Play Store. Il vous suffira de taper Yeli, Yeli. Depuis le 27 septembre 2025, le Maroc est le théâtre d'une contestation sociale inédite par son ampleur à l'appel du Madagascar. À l'appel du collectif Gen Z 212, des centaines de jeunes manifestent pour réclamer davantage d'investissements dans la santé, l'éducation, mais aussi des conditions de vie dignes, alors que le royaume renvoie l'image d'une économie en bonne santé qui se modernise rapidement. Comment expliquer ces revendications? C'est ce dont on parle dans Afrique.
Ce programme vous est proposé par notre partenaire RFI, Radio France Internationale, la radio du monde.
De croissance annoncée pour 2025, des investissements directs étrangers en nette hausse cette année, une inflation contenue depuis 2024. Les indicateurs mis en avant par les autorités sont au vert et pourtant, il suffit de pousser la porte d'une maison d'un quartier populaire pour constater une réalité plus contrastée.
Quand quelqu'un trouve un travail payé 3000 dirhams, on est heureux pour lui. Ici, les gens travaillent juste pour ne pas rester à rien faire.
Fadil est étudiant, il est sorti manifester plusieurs fois. Au Maroc, près de 36% des 15-24 ans sont au chômage. Ceux qui ont la chance d'avoir un emploi doivent faire face à un coût de la vie élevé, notamment en matière de frais de santé.
Si je veux me soigner dans le public, je ne vais rien trouver. Si je vais à la clinique, ils vont me demander 40 euros rien que pour une consultation. C'est 10% de mon salaire.
Le royaume renvoie l'image d'un pays émergent, en plein boom, couvert de chantiers. Mais pour Najib Krasbi, économiste, il y a un problème d'affectation des ressources.
Les besoins de la majorité de la population ne sont de toute évidence pas ceux qui sont pris en compte en priorité. Par contre, des dépenses ostentatoires, de prestige, de vitrine sont privilégiées. C'est le grand décalage.
Les grandes infrastructures sportives, les stades rénovés ou construits pour la CAN et la Coupe du Monde pour une enveloppe de près de 2 milliards d'euros en sont l'exemple le plus frappant selon cet économiste.
Le grand problème au Maroc, c'est qu'on investit massivement mais dans des investissements qui souvent, trop souvent, ne sont pas rentabilisés, ne génèrent ni assez de croissance, ni assez d'emplois.
Le budget du ministère de la Santé a augmenté de plus de 30% entre 2022 et 2024. Les besoins de base ne sont pour autant pas encore satisfaits, explique Najiba Krasbi.
Les moyens matériels déjà, les médicaments manquent dans les hôpitaux, les outils, les instruments de travail et aucune réforme sérieuse, crédible n'est réalisée.
Si la proportion de Marocains en situation de pauvreté a baissé en 10 ans, s'établissant à 7% en 2024, soit 5 points de moins, les zones rurales et 5 des 12 régions du royaume réunissent près de 70% de la population pauvre. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Ce programme vous est proposé par notre partenaire RFI, Radio France Internationale, la radio du monde.
On était donc bien au Maroc et pas à Madagascar, parce qu'au Maroc, c'est le collectif Gen Z 212 et à Madagascar, c'est juste le collectif Gen Z Madagascar. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour le prochain Volant Classico.
L'émission que vous venez d'écouter est une rediffusion.
Retrouve tes émissions préférées à toute heure.
Quel que soit le temps que ça prendra, je vous retrouverai
sur volume3media.com.